Europe 1.
La rumeur, elle intrigue, elle interroge, elle inquiète ou elle fascine. Elle est souvent transmise de bouche à oreille et lorsqu'elle est lancée, il est très très difficile de l'arrêter. Pourtant, la rumeur peut toucher chacun d'entre nous et détruire une vie. La rumeur prend source après un mensonge, une vengeance ou encore une erreur et malgré l'intervention de la justice, elle continue parfois encore à courir. Pour y échapper, certaines personnes n'ont alors d'autre choix que de quitter leur terre natale. Comment faire face lorsqu'on est victime de fausses accusations? Comment affronter le regard des autres? Et comment prouver son innocence et rétablir la vérité? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Sophia. Lorsqu'elle a rompu avec son ex-petit ami, celui-ci a divulgué des photos et des vidéos intimes d'elle sur des sites pornographiques. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus. Sophia, bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous?
Bien, merci.
Merci d'avoir accepté de passer ces quelques jours avec nous.
Avec plaisir.
Pour raconter votre histoire. Une histoire qui commence par la rencontre d'un homme avec qui vous avez eu une relation amoureuse pendant un an et demi à peu près.
Oui.
Avant qu'elle elle prenne fin. Et on va voir que cet homme n'a pas digéré
la séparation.
Cette séparation. Oui. Quelle a été la réaction de cet homme tout de suite lorsque vous l'avez quitté?
Il a bien cherché à me faire comprendre que c'était pas moi qui décidais de la suite ou non de notre histoire. Et il m'a dit « Je t'ai faite comme je le voulais, il n'est pas possible que tu me quittes maintenant. »
Alors on va voir que cette rupture et la vengeance de cet homme est très particulière.
Oui.
Parce que vous avez été ensuite victime. Et cela dure encore aujourd'hui,
oui,
au moment
fait.
Où nous échangeons. Oui. Vous avez été victime de ce que l'on appelle le revenge porn. C'est une vengeance où l'on se sert d'Internet.
Oui.
Donc cet homme a essayé d'inonder la toile avec des images à caractère pornographique.
Il y avait vraiment une notion de propriété. Tu m'appartiens, je fais ce que je veux avec toi. Je décide de ce que... De ce que je fais de toi, de ton image, il n'est pas question que tu m'échappes. Et si tu le choisis, bah, je vais te punir. Mais c'était vraiment ces mots, quoi. Il voulait me punir.
Est-ce que pour vous, Sophia, la projection sur la toile de votre vie intime, vous l'avez vécu comme un viol, un viol de votre intimité?
Ouais. C'était comme un viol public. Enfin, tout le monde a pu disposer de mon image. Enfin voilà, c'était, on faisait l'amour sur ces vidéos. Moi, je l'aimais. Enfin, j'étais abandonnée à sa confiance, à son moment. Et tout le monde se servait de ces images-là, quoi. C'est insoutenable, quoi.
Je vous remercie déjà, par avance, d'avoir accepté de témoigner de cette histoire parce que il faut que les choses bougent.
Mmh.
Et souhaitons qu'elles bougent. À travers votre témoignage. On va chez vous?
Oui, avec plaisir.
Sophia a 28 ans lorsqu'elle fait la connaissance de cet homme, un peu par hasard. Si elle ne sait rien de lui au départ, celui-ci sait se montrer sous son meilleur jour. Le couple entame une relation amoureuse passionnelle, mais qui, au bout de quelques mois, tourne à l'orage.
En fait, je découvrais petit à petit des petits détails, des petites choses comme sa jalousie maladive. Il disait qu'il préférait telle ou telle amie aussi. Ah, j'aime pas trop celle-là, je préférais que tu vois celle-là. Enfin...
Et vous exécutiez?
Oui. Et sa violence aussi, la violence psychologique.
Il n'hésitait pas à mettre le doigt sur...
Sur quelque chose qui pouvait me blesser, quoi. Je sais pas, je vais dire une bêtise, ma façon de m'habiller un jour... Ou parce que j'étais pas bien épilée, c'était vous méprisant, quoi. Il y avait plein de mépris quand il me parlait parfois, quoi. Et puis il mentait. J'ai compris qu'il vivait avec une autre femme, par exemple. Il m'explique qu'ils vont se séparer, que c'est sur la fin, qu'ils s'aiment plus, que c'est avec moi qu'il a envie d'être. Enfin voilà, c'est son personnage de manipulateur et de C'est un peu pervers tout ça, ouais.
Est-ce que vous vous rendez compte de ce côté manipulateur? Est-ce que parfois, vous vous dites, je suis tombé sur quelqu'un qui essaie de me modeler. Vous le remarquez, ça? Est-ce que vous vous le formulez?
Non, pas du tout.
Non.
Pas du tout, du tout. Non, c'est pour ça que je dis que j'étais assez naïve à l'époque, parce que j'avais plein d'alertes, quoi. Il y avait plein de signaux qui me parlaient, mais je ne me suis pas méfiée, quoi.
Il vous possédait?
Oui.
Je n'ai pas coutume de poser ce type de questions,
oui,
mais dans votre intimité, en fait, cet homme était comment?
J'ai découvert beaucoup de choses avec lui, et je me suis découverte intimement. Et du coup, je me suis ouverte à lui et abandonnée à lui intimement, quoi, vraiment. Il y a un tas de choses que je connaissais pas avant de le rencontrer, quoi. Donc, il a toujours eu beaucoup d'assurance et de... Il a jamais douté de lui sur ce plan-là, et du coup, c'était pour moi, justement, j'avais 28 ans, mais j'avais l'impression d'avoir 15 et de découvrir tout ça, quoi. Voilà, c'était très fort.
Il va aller loin, en filmant vos ébats.
Oui.
Comment est-ce que vous le vivez la première fois?
C'était pendant une fellation, en fait. Et puis, je me suis rendu compte à un moment qu'il avait son téléphone dans les mains. Et j'ai même pas tilté, je me suis même pas dit, il est en train de filmer, quoi. Je pensais qu'il était, donc c'est pour vous dire, si il était sur son téléphone alors qu'on était en train de faire l'amour, déjà j'aurais dû trouver ça grave, quoi. Mais j'étais tellement sous son emprise que je me suis même pas inquiétée de ça. Et le soir à table, il a mis le téléphone sur la table et il m'a montré, quoi. Il m'a dit, regarde ce qu'on a fait aujourd'hui.
Ouais.
Enfin là, je me suis vue. Mais ça a été un choc terrible pour moi,
ouais.
De voir ça. J'ai eu honte, j'ai même pas voulu regarder, quoi. J'ai dit non, range ça tout de suite, je veux pas voir ça, qu'est-ce que t'as fait, quoi. Donc là, il m'a rassurée. Là, dans ces moments-là, il s'est trouvé les mots qu'il faut. Je me souviens que j'ai pleuré, enfin, ça a été vraiment très, très violent pour moi.
Mm-hmm.
Et il m'a rassurée, il m'a expliqué que c'était beau, qu'on s'aimait, que ça se voyait, que ça transpirait même sur cette vidéo, que c'était de l'amour, quoi.
On sent que pour vous, c'est un choc.
Oui.
Mais son ascendant sur vous est tellement fort qu'il va vous emmener à recommencer.
Oui.
Et que vous acceptiez. Ça, c'est le pouvoir qu'il a sur vous.
Oui. J'aimais pas faire ça. Mais c'est parce que ça comptait pour lui, parce que ça l'attachait à moi aussi. Je me sentais... ça avait l'air fort, ce qu'il ressentait pour moi en regardant ça et tout ça. Donc je me disais, bon ben, voilà, il aime ça, vas-y, quoi. Fais pas ta mijaurée.
Mmh.
Mais pas une seconde, je me suis pas méfiée du tout de... Enfin, j'ai même pas imaginé ce qui pouvait se passer avec les photos, les vidéos.
Cette histoire va pourtant prendre fin. En tout cas, vous décidez à un moment d'y mettre fin. Il ne l'accepte pas du tout.
Hein. Oui. Le fait que j'ai pris la décision de le quitter, ça l'a rendu fou de haine. Donc c'était un chantage très simple, hein. Si tu montes pas me voir, je diffuserai ces photos et ces vidéos. Et
vous vous exécutez?
Mais évidemment, je savais qu'il ferait, quoi.
Mm-hmm.
Donc le seul moyen pour moi de me rassurer, c'était de répondre à ce chantage, de lui dire ok, bah le fais pas, j'arrive, quoi. Donc voilà, une fois, deux fois, et le dernier, ça a été un moment très très violent, oui. Très très violent. Enfin voilà, je pensais pas que je pouvais vivre un truc aussi violent dans ma vie un jour, quoi. C'est dingue.
Et qu'est-ce qu'il va faire que c'est le dernier?
Il est passé à l'acte, en fait, après.
Alors, il diffuse, il commence à inonder la toile. Comment est-ce que vous êtes mis au courant par ça? Est-ce que ce sont des amis qui...
Oui, donc la première fois qui fait ça, c'est vraiment les amis très proches, quoi. Le cercle d'amis très proches, la famille. Donc mon frère, ma mère, mon père et les amis proches.
Par quel biais, en fait?
Facebook.
qui crée un faux profil Facebook avec une identité, enfin avec mon identité et une photo de moi classique. Et à l'intérieur de ce profil, il y avait des photos de moi nues, des photos pornographiques et les liens vers les vidéos vers les vidéos qu'on avait faites ensemble et qu'il avait mis sur les sites pornographiques. C'est là que j'ai compris qu'il avait mis ses vidéos sur les sites pornos. J'avais prévenu le plus possible mon entourage, évidemment, pour pas qu'il soit choqué par tout ça. Ma mère, elle a écouté ce que je lui ai dit, elle a jamais rien ouvert.
Mais est-ce que votre père, votre frère...
Oui, mon père, mon frère ont vu les photos, ont vu les vidéos.
Et comment est-ce qu'ils ont réagi à tout ça?
J'entends encore mon petit frère, il est devenu complètement hystérique, il a tout cassé à la maison. Et mon père, ça a été une catastrophe. Il m'a appelé tout de suite et il m'a dit « Mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ces cochonneries que j'ai vues? Qu'est-ce que t'es allé faire? C'est quoi ces horreurs que j'ai vues ?» Enfin, ça a été terrible. J'ai pas su lui expliquer. Enfin, j'ai essayé, mais il était tellement choqué par ce qu'il a vu que j'ai eu du mal à justifier, quoi. C'est... Quand on voit sa fille comme ça, à mon avis, c'est des images qui choquent pour toute la vie.
Pour que ceux qui nous regardent ce soir se rendent bien compte de tous les endroits où il met ses photos. En fait, c'est sur Facebook, plusieurs profils,
ouais.
Sur des sites
pornographiques.
Ouais. Mais est-ce que, par exemple, aussi, lorsqu'on cherche des images de quelqu'un, on tape votre nom, et ne serait-ce que votre nom,
ouais.
Tout de suite, ça mène vers,
oui.
vers ça ?
Sur Google, par exemple, lorsqu'on tapait mon nom dans la barre du moteur de recherche, ça sortait tout de suite.
Comment est-ce que vous le vivez, vous, intérieurement ? Quel impact ça a sur vous, ça ?
C'est destructeur, quoi. Ça, là, à partir de ce moment-là, j'ai sombré, quoi. Parce que... Il a donc commencé par le cercle très proche, et puis une fois qu'ils étaient atteints, ils étaient concernés, touchés, qu'ils savaient, ils s'ennuyaient, quoi. Donc il a touché un cercle un peu plus grand, puis un cercle un peu plus large, puis donc c'était les amis un peu plus, l'association dans laquelle j'étais, le travail, ma collègue directe et tous les autres collègues de du site régional à Toulouse. Mais il a aussi envoyé un mail aux commerciaux, en fait, à Paris, à l'ensemble des commerciaux. Donc, heureusement, j'avais eu l'intelligence d'aller voir le directeur et de lui en parler.
Oui.
Je lui ai dit quelques jours avant que ça éclate, écoutez, j'ai fait une bêtise, il y a un homme qui me veut du mal en ce moment et vous risquez de recevoir des trucs un peu immondes. Et ça s'est passé 2 jours après. Je maîtrisais plus rien du tout, quoi. J'étais complètement sous la vague, quoi. C'est comme un tsunami. J'étais sous la vague et je pouvais plus rien faire, plus rien maîtriser. Tout le monde pouvait avoir accès à ces vidéos, à ces images. Je rasais les murs. J'ai l'impression que tout le monde voyait ça, que c'était écrit sur mon front, que je pouvais plus me déplacer sans qu'on pense ça, quoi.
Cette impression, en fait. Que le monde entier est au
courant.
Oui,
que tout le monde pense à ça, tout le monde sait. Quand je croisais quelqu'un qui s'adressait d'une certaine façon à moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a, il doit me connaître, il doit, à mon avis, il m'a vu, ou il me veut quelque chose, ou je me dépêchais de rentrer du travail à vélo, je pédalais comme une folle dans Toulouse pour rentrer vite, 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 et je m'effondrais et je restais par terre jusqu'à tard dans la nuit, parce que j'avais mal, je souffrais, enfin, j'étais allongée par terre et je pouvais plus me lever, quoi.
À terre.
À terre, ouais. Donc je sais pas comment j'ai fait pour me lever le matin, pour aller au travail, pour continuer à sourire, pour... Mes amis me disaient, mais mets-toi en arrêt de travail, même ma famille. Ils me disaient, mets-toi en arrêt de travail, n'y retourne pas, t'es pas obligé d'être exposé à tout ça, arrête-toi, arrête de travailler, déménage... Et je leur répondais, mais non, il n'est pas question que ce soit lui qui décide de ce que je vais faire dans ma vie. Et je savais que si j'arrêtais ça, si j'arrêtais le travail, je savais que j'aurais passé mes journées à réfléchir à tout ça et à le subir encore plus.
Il a posté aussi et mis en place des vidéos sur les sites de rencontres, mais porno.
Oui. Voilà, il disait que j'étais très ouverte, que j'attendais les visites, et donc il donnait mon adresse mail, mon numéro de téléphone, mon adresse postale, mon numéro de téléphone professionnel aussi. Et donc évidemment, j'avais un tas de coups de fil, un tas de visites, des gens qui venaient chez moi, qui sonnaient à mon interphone, qui venaient au boulot. Et donc là, je comprends qu'il passe encore un cap dans la folie, quoi. Et je me sens encore plus en danger parce que je me dis, je suis accessible. Les gens savent où me trouver, savent à quoi je ressemble. Ils me voient faire l'amour, ils savent que j'habite à tel endroit, je travaille à tel endroit. Enfin, je me sens en danger, quoi. Un jour, je suis rentrée, la porte de mon appartement était recouverte de post-it d'un homme qui était dans le désir de me rencontrer. Il me disait qu'il voulait faire la même chose avec moi. Enfin, c'était très douloureux, en fait. Je pense que ça me faisait vraiment mal physiquement et je me suis sentie... Je crois qu'il a réussi à ce moment-là à me détruire, quoi. Je me suis sentie moins que minable, quoi. Enfin, ce rapport au sexe, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est vraiment humiliant. C'est vraiment très, très humiliant.
Parce que c'est très...
très intime. J'ai eu envie d'être morte pour que tout ça s'arrête plusieurs fois. Ça m'est arrivé.
Au total, ce sont plus de 150 faux profils Facebook et des milliers d'images pornographiques mettant en scène Sophia qui sont mises en ligne sur Internet. Un enfer pour la jeune femme qui vit dans la hantise de nouvelles publications.
Je pense qu'à ça. Je pense qu'à ça. Dès que j'ai 5 minutes de pause au travail, je regarde s'il y a un nouveau profil, je tape mon nom et je fais que ça de mes journées. Surveiller et supprimer quand il faut et signaler, écrire en anglais au site hébergeur pour leur dire que j'ai remarqué qu'il y a une nouvelle vidéo et que je ne suis pas d'accord pour qu'il la diffuse. Donc voilà, je passe mon temps à faire ça. Et ma maman me dit souvent, même à Noël, même au repas de famille, j'étais avec le téléphone sous la table en train de supprimer ses profils et ses trucs. Ouais.
Vous êtes tellement obsédée à un moment par l'élimination de ces vidéos et que vous allez voir les commentaires aussi,
oui.
Parce que vous avez envie de vous tenir au courant de l'impact que ça a sur les gens, s'ils vous ont reconnu, qui a vu cette vidéo.
Oui, c'est ça. Pour savoir si je reconnais des personnes de mon entourage ou de mon travail.
Vous ne dormiez plus, hein, pratiquement. Vous vous couchiez très tard.
Oui, voilà, je me couchais très tard.
Votre hygiène de vie a totalement été bouleversée par cette histoire.
Bon, voilà, c'était une obsession et du coup, ça m'a occupé beaucoup de temps et au détriment d'autres choses, quoi. Donc bien me nourrir, dormir. Je me suis petit à petit dégradée physiquement, quoi. J'ai perdu une dizaine de kilos. Je dormais très peu, donc j'ai une malformation cardiaque, du coup j'ai de l'arythmie. Donc j'avais des grosses arythmies. La nourriture aussi, ça a été compliqué à un moment.
C'est-à-dire ?
J'avais plus envie de rien, j'avais plus de goût pour la nourriture, quoi. Donc voilà, le corps, bah, petit à petit, il ramasse. Donc c'est de plus en plus compliqué, quoi. Ce sont des images de mon corps, ma nudité, de mon intimité, de mon amour, de ma manière de faire l'amour. Et on voit mon sexe, mes seins, mes fesses. Ça, c'était pour moi insoutenable. C'était interdit de diffuser ma nudité. J'offre ça à celui que j'aime, avec qui je partage quelque chose de fort. Et là, il exposait tout et il distribuait ça à tout le monde, au monde entier.
Pendant combien de temps, en fait, cette obsession, hein, dans laquelle vous vous enfermez à telle durée ?
C'était vraiment intense pendant 2 ans.
Peu après avoir rompu avec son tortionnaire, Sophia a rencontré Sébastien, avec qui elle a entamé une nouvelle relation. Séparée aujourd'hui, l'exposition numérique de Sophia n'a pas été sans conséquence sur leur couple. Vous le premier, lorsque vous cherchiez, vous trouviez facilement ces vidéos
Oui.
Il y en avait où?
Partout.
Partout.
Partout. Ne serait-ce qu'avec un prénom, un nom, ne serait-ce qu'avec en mettant des actes, simplement. Il y en avait partout. Des images, des vidéos, partout. Ça a inondé la toile. À un certain moment, je passais mon temps le matin. La première des choses que je faisais, c'était aller sur Internet, voir s'il y avait de nouvelles vidéos pour le lui dire et qu'elle puisse faire le nécessaire pour les faire disparaître. Et je crois que ma place à ce moment-là d'amoureux, j'aurais pas dû faire ça, en fait. Je crois que ça a beaucoup affecté notre relation par la suite.
Pourquoi ?
Mais parce que quel regard elle porte sur moi, ne serait-ce que quand on fait l'amour. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Donc,
Bien sûr que
j'ai vu les vidéos, ouais. en sachant cela. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là ? Est-ce que moi, j'ai un comportement qui est respectueux ou pas ?
Ouais.
Il y a beaucoup de questions qui se posent. Ouais. Donc, ça fait beaucoup d'émotions, d'interrogations.
Beaucoup de choses qui polluent aussi.
Beaucoup de choses qui polluent. Et là, il y a de la colère parce que c'est injuste, en fait. C'est injuste. Sophia, c'est l'épicentre de cette souffrance, mais la répercussion, elle est vaste. Elle rencontre un amoureux, alors que je crois qu'on aurait pu faire un long chemin ensemble, ça a énormément affecté notre relation, même en étant conscient de ce qui se passait. Donc c'est là tout le temps, quoi. Donc c'est quelque chose qui grignote, c'est...
Comme un poison.
Ouais, c'est un poison, en fait. Et ça, c'est là où une vie, elle peut être détruite. Complètement.
Ouais.
Complètement.
Sophia a déposé plainte à plusieurs reprises contre son ancien compagnon, mais les policiers n'ont pas l'habitude de traiter ce genre d'affaires et elle a d'abord eu le sentiment qu'on ne prenait pas son histoire au sérieux. Insaisissable, l'homme continue son harcèlement sur Internet et s'est suffisamment brouillé les pistes pour ne pas être inquiété. En dernier recours, l'avocate de Sophia décide de saisir le doyen des juges d'instruction qui demande à ce qu'elle soit entendue. En mars 2017, vous allez être reçu par une juge d'instruction. Comment est-ce que ça se passe et est-ce que cela vous redonne espoir ?
Oui,
ouais.
Ça me donne espoir parce que je vois enfin la considération d'une personne qui a le pouvoir de juger ses actes, quoi.
Vous sentez ce jour-là, oui. Que cette juge d'instruction,
oui, je le sens, oui.
Vous croit.
Oui. Je sens qu'elle est avec moi, je sens que. Ils doivent être évidemment objectifs, hein, mais je sens qu'elle est. Elle était objective, en fait, sincèrement. Mais par contre, elle entendait tout ce que je disais. Elle écoutait tous les détails, elle donnait de l'importance à tout ce que je disais. J'avais jamais senti ça auparavant, quoi.
Cet entretien avec cette juge, j'ai l'impression que. Pour vous, ça a été très important. Enfin, on vous reconnaissait en tant que,
oui.
Que victime.
Ça a été la bascule. Ça a été la bascule. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, je me suis un peu relâchée, quoi. J'ai arrêté de... J'ai décidé, après cette audition, d'arrêter de fouiner sur Internet. Donc, comme quoi, ça a été un moment... Enfin, ça a été un moment vraiment clé, quoi. J'ai arrêté de chercher ces vidéos, j'ai arrêté. J'ai dit bon, tant pis. Autour de moi, tous les gens que j'aime sont au courant. J'ai commencé une nouvelle vie, j'ai rencontré des gens qui s'intéressent à moi malgré cette histoire-là. Je me dis allez, c'est bon, quoi. T'en as bavé assez, ça fait 3 ans que ça dure. Allez. La juge est là, ça va aller, on va avancer.
Mais une semaine après cette rencontre, comme un contre-coup du calvaire qu'elle a subi, Sophia tombe malade. Elle est atteinte d'une maladie neurologique grave, le syndrome de Guillain-Barré. Paralysée de la tête aux pieds, elle passe 9 mois à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Progressivement, Sophia surmonte la maladie et après une longue rééducation, décide de quitter Toulouse, une ville où elle ne se sent plus en sécurité. Si depuis 2016, la loi française réprime les faits dont s'est rendu coupable son ex-compagnon, celui-ci n'a jamais été condamné.
J'ai vite compris qu'il ne fallait pas que j'attende une décision de justice pour me reconstruire. Donc évidemment que j'y pense, que c'est quelque chose que j'espère, mais je ne l'attends pas pour ma vie, quoi. Pour mon bonheur, pour mon quotidien.
Est-ce que cet homme continue de vous nuire encore aujourd'hui ?
Oui.
Oui.
Il continue, oui. Il y a encore des profils Facebook, je sais qu'il y a encore des vidéos qui sont disponibles sur Internet. Donc oui, il continue de me nuire, oui. S'il y avait une condamnation, ça l'arrêterait, quoi.
Qui s'occupe aujourd'hui de supprimer les photos et les vidéos que cet homme peut encore, puisqu'il le fait encore, mettre sur Internet ?
Les amis s'en occupent encore.
Vous, c'est terminé ?
Je crois que les amis, peut-être d'autres personnes, je sais même pas. Mais moi, c'est terminé, ouais. Je n'y mets plus le nez. Non,
c'est quelque chose que vous avez mis loin de vous ?
Ouais. Oui, c'est pas la peine. C'est pas la peine que je m'encombre de ça. L'homme qui partage ma vie en ce moment est au courant et tous ceux que j'aime aussi, donc c'est ce qui compte, voilà, c'est limpide pour moi à ce sujet.
Je vous remercie mille fois d'avoir pris de votre temps pour nous apporter ce témoignage, votre parole, votre douceur et votre intelligence et votre force surtout. Pour ça, mille merci. Et puis, portez-vous bien.
Merci.
On passe sans nous revoir.
D'accord.
Portez-vous bien.
Merci beaucoup, Olivier.
À bientôt, Sophia.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Davio. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.